Je sais pas si vous êtes des amateurs de IKEA. Moi, je suis plutôt IKEA. Je vous le dis, là. Parce qu'on va parler d'IKEA dans les prochaines minutes. Fait que je veux que vous sachiez où je campe. Écoutez, le fondateur d'IKEA est mort. 91 ans, le bonhomme. Ingvar Kamprad. Un Suédois, bien entendu. Écoutez, il a fondé ça dans les années 50. Même 40, peut-être, va nous dire notre invité. 47, en fait. 47. Aujourd'hui, IKEA emploie 190 000 personnes, chiffre d'affaires annuel de 58 milliards. Quelle histoire, n'est-ce pas, Luc Dupont, professeur à l'Université d'Ottawa?
Absolument. Une des belles histoires. Dans le domaine de l'entrepreneurship, là, assurément, pour ce qui est du 20e siècle, là, un des très, très grands succès, un des très grands entrepreneurs également.
Alors, il commence, il vit dans un petit village. Il vient pas de l'argent, lui-là. C'est un fils de paysan. Il est pas bon à l'école, si je comprends bien, ou en tout cas, il aime pas l'école, puis il décide, à un moment donné, il y a 17 ans, qui veut lancer sa propre petite entreprise.
Oui, qu'il va fonder officiellement en 1943. Puis ça dépend évidemment toujours à quel moment, pour toi, ça s'appellerait du IKEA. Là. Mais lorsqu'il va lancer cette entreprise-là, il lui donne ce nom-là. À l'origine, ça n'a rien à voir avec le IKEA qu'on connaît aujourd'hui. C'est une entreprise qui vend des trucs par la poste. Alors, tu peux acheter, par exemple, des décorations de Noël, des montres, des crayons et, tu me vois bien sûr venir, des meubles. Mais il y a juste un problème avec les meubles par la poste. C'est que comment tu vas shipper ça?
Ben oui.
Et à un moment donné, arrive un incident, comme toutes les bonnes histoires. Il y a un incident, c'est que quelqu'un commande un meuble. Il faut mettre le meuble dans le camion. Je ne suis pas capable de rentrer le meuble dans le camion. Et là, il y a un employé qui dit, si on dévissait les pattes du meuble, oh, on serait capable de faire ça. Et là, il dit qu'à partir de ce moment-là, cette remarque-là va absolument l'obséder. Et c'est là qu'il va développer toute cette science-là là, du meuble dans une boîte de carton. Puis qu'éventuellement, bon, va donner naissance à une première salle de monde parce que les gens vont dire, je voudrais voir les meubles monter. De quoi ça a l'air?
Ben oui.
Alors, on est en 1953. Puis un petit peu plus loin, il va dire, peut-être qu'on pourrait non seulement avoir une salle de monde, mais quelque chose qui ressemblerait davantage à un magasin au sens où on l'entend communément. Et là, ça, c'est en 1958.
Tout ça se passe en Suède, là. Hein,
tout ça se passe en Suède. Assez rapidement, il fait le saut bon, dans les pays scandinaves, sans surprise, Finlande, Danemark également, on est en 1960. Et puis là, il va faire le saut par la suite. Bon, plusieurs petits sauts, tu le devines, bien sûr. Au Canada en 1976, en Colombie-Britannique. Aux États-Unis en 1985. Donc, c'est somme toute relativement récent. Et plus récemment, je voyais en Corée du Sud et en Inde. Et lorsqu'on a lancé le premier IKEA en Corée du Sud, là, il y a eu un problème de circulation au centre-ville. Tellement c'était la folie. Et moi, Bernard, personnellement, je connais des gens qui partent la fin de semaine, le samedi matin, de Québec et qui se rendaient jusqu'à tout récemment à Boucherville pour aller au IKEA.
Ben oui.
Puis qui revenaient. Ça, c'est leur sortie de fin de semaine. Alors, on parle de quelque chose qui est assez...
Mais là, il va en avoir un à Québec, là, Luc.
Oui, il va en avoir un. Il y en a déjà eu un.
Oui, c'est ça. Je pense on l'a eu. Enfin, Québec l'a eu. À un moment donné, ils l'ont fermé.
Oui, en 95-96 de mémoire. Et ça coïncidait aussi, bon, avec le départ de l'équipe de hockey professionnelle. Il y a un petit moment, là, très lugubre. Il y avait même eu un communiqué de presse émis par IKEA à l'époque. Je me souviens très bien de ça. Parce que c'était tellement inhabituel de fermer un IKEA.
Mais c'est ce que j'allais dire.
Et là, le symbole, le fait qu'on est en train d'en construire un moment où on se parle, à Sainte-Foy, ce qu'on appelait autrefois Sainte-Foy, là, mais Québec maintenant. Mais, et ça, c'est signe que la ville est repartie. Tu vois comment c'est une marque qui n'est pas anodine. Et on parle de la 8e fortune la plus importante au monde, là, le monsieur qui est décédé.
Ingvar Kamprad.
Oui, qui valait 58 milliards de dollars. Écoute. Et puisque tu pratiques ton suédois, je vais le pratiquer avec toi, si tu me le permets. Quand on essaie de comprendre la recette, parce que là, on parle de quelque chose assez magique.
Oui.
Prendre ta voiture, faire deux heures et quart de voiture pour aller acheter un meuble démonté. Quand tu penses un petit peu, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est parce que dès que tu rentres là-dedans, c'est ce que j'appellerais, moi, l'expérience. Hein? Côte-boulard.
Oh.
Ça, c'est des boulettes de viande. Mais reconnais avec moi que si ça s'appelait des boulettes de viande, ça serait plate.
Mais j'en ai dans mon frigo.
Et tu en as dans ton frigo.
Je te juge.
Et tu sais que tous ces noms-là, qui sont assez faciles à mémoriser, j'aurais le goût de te dire, c'est parce que le fondateur était dyslexique. Et puis lui, il disait, je vais être certain d'être capable de prononcer les noms des produits que je vais vendre. Alors, problème de concentration, tu le disais en intro, pas bon à l'école. Puis en passant, son IKEA là, qui va lancer en 1943, qu'est-ce que c'est? Il vient d'arriver à la maison, puis il y a un bon bulletin. Il n'y a jamais de bon bulletin. Puis papa dit, m'a donné des sous. Et qu'est-ce qu'il fait avec ses sous? Ben, il crée son premier IKEA. Alors, c'est une histoire qui est absolument remarquable. En même temps, avec toutes sortes d'excès, on parle de quelqu'un qui, par exemple, disait, pas trop d'employés parce qu'il ne faut pas faire de pression sur les consommateurs. Je te parlais de la recette tantôt, l'expérience. Mmh. Bon, en réalité, ce qu'on comprend quand on gratte un petit peu plus, c'est que moins d'employés, ça coûte moins cher. Quand ils prenaient le fameux... ils faisaient des catalogues, encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Ben oui.
Imprime 210 millions de catalogues à travers le monde. Puis pour ceux qui sont familiers ou qui ne seraient pas familiers avec le catalogue, il est de format carré. Il y a beaucoup de gens qui gardent ça puis qui le regardent, lancé en 1951. Et ce qu'il disait à l'origine, c'est on n'engagera pas de modèle professionnel, de mannequin et tout ça, parce que ça coûterait plus cher. On va prendre des employés.
Le bonhomme, il était chiche. Disons-le comme ça, là. Hein? Il était chiche.
Malade chiche. Alors, on parle de quelqu'un qui se vantait jusqu'à la fin de sa vie d'avoir acheté à peu près tous ses vêtements dans des marchés aux puces. Officiellement conduisait une vieille Volvo depuis 15 ans. Bon, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait un livre sur lui puis qui a gratté un petit peu plus. Puis il a dit, bon, il y a une Volvo, mais à côté, il y a une Porsche. Officiellement, donc, voyageait dans les classes écono en avion, l'hôtel également. Et signe de la maladie du gars, là, parce que sur ce plan-là, évidemment, quand tu ramasses 58 milliards aussi, il y a deux, trois petites chose qui manifestement t'obsède, dont certainement les sous, hein. C'est la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. Il recyclait ses sacs de thé. C'est pas de sacs de thé. Quand tu fais ça, t'es un petit peu spécial, ça c'est sûr. Maintenant, en parallèle, un démontage financier spectaculaire. Il a quitté assez rapidement la Suède parce qu'il a dit « Maudit, on paye trop d'impôts ici, ça n'a pas de sens. » Il a mis ça dans des montages, des fiducies au Luxembourg, au Liechtenstein, Pays-Bas également. Bon, en grattant, on a découvert aussi à un moment donné qu'il y avait un vignoble en Provence. Alors, tu vois que c'est un personnage, comme tous les personnages de cette amplitude-là, avec toutes sortes de travers étranges.
Là, laisse-moi te poser la question. Parce que j'en ai déjà rêvé. Je me suis dit, comment ça se fait que les Suédois gardent du bois, là, on en a au Québec? Oui. On est supposé être un peuple bien créatif. Ben, moi, je pense qu'on l'est à cause de notre héritage
aussi,
culturel européen, nord-américain, bon. Et donc, je me disais, pourquoi les Suédois ont réussi à lancer une grande chaîne comme IKEA? Puis pourquoi... nous, par exemple, les Québécois, ou un autre, je sais pas moi, pourquoi est-ce qu'on réussirait pas à... Pourquoi est-ce qu'on... Comment ça se fait que ça a marché, IKEA, dans le fond, ultimement? Là? Oui,
ben, c'est la recette. Bon, tu parlais du bois. En passant, IKEA consomme 1% de tout le bois de la planète annuellement. On estime qu'il y a un enfant sur 10, donc 10% des enfants en Europe ont été conçus dans un lit IKEA.
Oh ben.
Et 1 sur 5 en Angleterre. Alors, on parle de 20% ici, là, c'est pas négligeable. Alors oui, c'est absolument gigantesque au-delà des chiffres. Je pense qu'il y a le design, le sentiment de faire une bonne affaire. Alors lui, ce qu'il disait, c'est... Si on fait des piles de produits là, dans les boîtes, dans l'entrepôt, les gens vont avoir le sentiment qu'ils font une maudite bonne affaire. Qualité-prix, l'assemblage, peu d'employés, le nom des produits. Moi, beaucoup de gens me disent la fin de semaine, quand ils reviennent du IKEA, je suis allé en voyage. Parce que je te rappelle qu'il n'y a rien qui s'appelle une chaise ou une table. Mais... L'autre truc, c'est que... Bernard,
écoute, IKEA a fait pour la culture suédoise.
Ah!
Ce qu'aucune autre entreprise, je pense, suédoise a fait, là. C'est hallucinant, là.
Certainement. Et c'est pour ça que les Suédois sont en même temps partiellement ambivalents. C'est-à-dire que voici le gars qui nous a mis sur la carte. N'ayons pas peur des mots ici. Alors, lui, il disait, s'il y a une garderie dans le magasin, s'il y a des restos, les gens vont rester plus longtemps. Si les gens restent plus longtemps, ils risquent d'en s'enfarger dans des produits, ils vont acheter un petit peu plus.
Mais
même
là,
chose
si
avec
tu
les
savais,
flèches au
si
sol.
Si tu savais le nombre de samedis, à un moment donné, on n'en pouvait plus. On allait magasiner, on laissait nos deux derniers, mettons nos deux bébés à la garderie du IKEA, puis on allait faire nos courses.
Ouais.
Puis on mangeait des boulettes suédoises quand on.
Exact. Et tu suivais les flèches.
Bien sûr.
Et avoue avec moi que si en rentrant dans un Walmart, on disait tourne à gauche, tourne à droite, tourne à gauche, au Sears qui a fermé ou peu importe les autres boutiques, t'accepterais pas ça. Mais tu l'acceptes au IKEA. Puis en faisant le tour comme ça, qu'est-ce qui arrive tout le temps? T'es parti pour deux chaises.
C'est sûr.
Et quelle belle la table. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est sûr. Tu reviens avec la table.
C'est beau, ça, pour les livres du petit, là. Oh, les petites bandes dessinées de Tintin, d'Astérix. Oui, oui, on l'achète.
Arrête. Tu vas nous ruiner, Luc Dupont. Professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa. Toujours un plaisir. Merci.
C'est un plaisir.
Très belle histoire. Alors voilà, c'est notre première journée de la semaine. Merci d'être là. Il y a Paul Oud qui s'en vient avec le Québec maintenant. La journée se continue. On lâche pas. À demain tout le monde.